Oui.
Oui. Alors je dirais que l'unité ne veut pas dire uniformité, parce qu'on n'est pas des clones, hein, et on peut, en tant que disciple de Jésus, ne pas partager les mêmes avis sur certains points secondaires. Et je crois que l'unité, elle se fait sur les éléments de base. Si on est tous convaincus de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, de quelle manière il nous en fait bénéficier, du fait qu'on doit aimer les autres, leur transmettre l'évangile et en faire des disciples, tout ce qui vient après, c'est pas si grave si on n'est pas 100% d'accord. Et je crois que si on est d'accord là-dessus, et notamment sur le fait d'aimer les autres et qu'on le fait ensemble, ben quand on aime, je donne un exemple, hein, qu'on soit charismatique ou pas charismatique, ça changerait en fait. Quand on aime, ben on fait du bien, on rend service, on écoute. Donc pour moi, le reste quelque part, et t'as un plan où... On peut ne pas être d'accord et c'est pas grave. Voilà, mais c'est mon avis. Hein, c'est... Ouais. D'autres questions? Est-ce que je passe à la suite? Oui? Guigui me valide, alors je vais. Alors, on a vu un tout petit résumé, qu'il était important de bien comprendre l'ordre de mission que nous donne Jésus et de réaliser que ça s'adresse à chacun d'entre nous. Puis avec Jean 17, la prière, on a vu qu'avant de se lancer dans la mission, il faut entretenir et développer notre relation personnelle avec Jésus, qu'il faut se débarrasser de ce qui la perturbe par la repentance, qu'il faut être uni à nos frères et sœurs, et ensuite, à ce moment-là, rentrer dans cette mission, aller vers le monde. Et puis on a vu qu'il fallait réaliser pour ça quelle était notre identité, et la Bible nous dit que dans ce service, nous sommes amis de Jésus, enfants de Dieu, et collaborateurs avec Dieu. Donc on pourrait dire on a l'attitude avant de se lancer. Mais ensuite, pour répondre à la mission donnée par Jésus, il faut qu'on soit très au clair sur ce qui est au cœur de la mission et qu'on appelle l'Évangile. Alors c'est vrai que dans les églises évangélique, l'évangile, on en parle facilement, c'est normal, hein, on est des évangéliques, c'est un peu notre identité. Mais est-ce qu'on est vraiment au clair sur ce que veut dire l'évangile? Quelle est sa définition, puisque c'est ce qu'on va devoir transmettre aux autres? L'évangile, selon les paroles de Paul, en Romains 1, les quatre premiers versets, il dit « C'est l'évangile de Dieu qui concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David » et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son œuvre en notre faveur. Pardon. On a donc cette vraie bonne nouvelle à partager que beaucoup autour de nous n'ont jamais entendue. Et je voudrais vous montrer dans une vidéo la réaction de personnes qui entendent une chose pour la première fois, une chose excellente. C'est des personnes qui sont sourdes, et au moment où on les équipe, où on les appareille, pour la première fois de leur vie, ils entendent. On va regarder leur réaction.
Hi, Cooper. Hi, Cooper. Hi, Cooper.
C'est vrai que malgré la valeur du message de l'évangile, il est rarement accueilli comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens à qui vous annoncez l'évangile, mais tout d'un coup, ils sont dans cet état-là. On ne voit pas souvent des gens fondre en larmes quand ils entendent l'évangile. Pourtant, entendre que Dieu nous aime, qu'il peut nous pardonner et qu'il veut de tous nos péchés, qu'il nous réserve une place dans son éternité magnifique, c'est bien mieux que juste entendre. Mais c'est vrai que si l'évangile n'a pas souvent cet accueil, c'est peut-être parce qu'il n'est pas toujours présenté clairement, et peut-être pas dans de bonnes conditions. Et avant de voir comment le présenter, je vous propose de faire une révision rapide de l'évangile. C'est vrai, on se dit, on le connaît, on sait ce qu'on doit dire, mais parfois peut-être qu'il y a des éléments qu'on peut négliger. Donc voilà un petit résumé rapide de l'évangile. La Bible est notre référence. Et je pense que c'est vraiment important de dire, quand je parle de l'évangile, ça vient de ce livre. La Bible est notre référence, et la Bible, elle nous présente Dieu. Dieu, c'est celui qui est à la base de tout. Tout vient de lui. Il est l'auteur de la création qui était parfaite à l'origine, et au sommet de sa création, il a placé sa créature favorite. Sa créature favorite, l'homme, qu'il crée à son image. Et seul l'homme est créé à son image. Et le but de Dieu, c'est d'être en relation avec l'homme. Mais Dieu donne aussi un cadre à l'homme pour que ce cadre parfait continue de rester parfait. Un cadre qui laisse l'homme libre, libre de choisir le bien que Dieu a établi pour lui, mais libre aussi de s'en éloigner, de désobéir, si c'est son choix. Et l'homme, on connaît l'histoire, hein, il a utilisé sa liberté pour désobéir. Et à cause de la désobéissance de l'homme, à cause d'une mauvaise utilisation de cette liberté, l'homme s'est éloigné de Dieu. Il a été tenté par l'ennemi de Dieu, par Satan, qui lui a donné l'idée de désobéir à Dieu. Et l'homme a voulu vivre selon ses propres choix. Être un peu son propre Dieu, décidé par lui-même. Et là, c'est la catastrophe, la Bible nous dit dans les premiers chapitres de la Genèse, que tout a été affecté par cette désobéissance. Des fois, on dit, ouais, quand l'homme a péché, bon, le péché est rentré dans le monde. Mais en fait, c'est bien plus que ça. La relation avec Dieu a été bouleversée. La relation entre humains a été bouleversée aussi. Premier truc que Adam il dit à Dieu, c'est pas moi, c'est ma femme. Bon, il dit ce qui s'est passé, mais en même temps, mettez-vous à sa place. Elle commence à se dire, qu'est-ce qu'il raconte ? Je me fais balancer. Et même la nature a subi des conséquences dramatique à cause de la désobéissance de l'homme. Paul commente ça dans Romains 8, je vous lis le verset 20 et 22. La création livrée au pouvoir du néant tourne à vide. Tout dépérit et meurt. Jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Oui, tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel, jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Autrement dit, Paul est en train de dire, notre monde, depuis ce jour-là, il est en agonie. Et il attend que Dieu vienne et dise, j'enlève et je refais à neuf. C'est ce qu'il fera, et c'est raconté dans l'Apocalypse. Donc voilà un peu l'histoire de l'humanité, et voilà quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout d'abord, nous sommes tous coupables. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas besoin de prouver hein, qu'on a péché, qu'on était pécheur. Donc, on est tous coupables. Deuxième point, on est tous responsables. Jacques 1, verset 13 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Autrement dit, le péché n'est pas une fatalité. Et on ne doit pas se le faire croire. C'est toujours une réponse de notre part. Il y a un désir en nous qui devient péché le jour où on dit « je cède ». Donc on est responsable. Les conséquences, Romains 5, 12 et 6, 23, « la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. » Pourtant, Dieu ne voulait pas ça. 1 Timothée 2, versets 3 et 4, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu continue d'aimer les hommes, même quand ceux-ci le repoussent. Et Dieu a mis en place un plan de sauvetage pour les récupérer et pour les sauver. Parce que Dieu est vraiment intéressé par le fait de nous délivrer de cette catastrophe. Et il est intéressé à notre sujet par quelque chose de bien plus grand, notre vie éternelle et notre réconciliation avec lui. Mais du coup, c'était rendu impossible. Et alors Dieu a décidé que pour compenser toutes nos bêtises impardonnables vis-à-vis de sa sainteté, face à la punition obligatoire qui nous attendait, on l'a lu dans les passages, le seul moyen, c'était de nous remplacer par son Fils Jésus, qui est lui-même Dieu venu en tant qu'homme, lui qui est complètement parfait, qui a vécu sur terre une vie parfaite, sans péché, et de le punir à notre place. Juste quand on se remet ça en tête, enfin, moi je vous le dis, je me dis, c'est pas normal en fait cette histoire. C'est pas juste. Il va être puni à notre place. Seul celui qui n'a commis aucune faute en prenant notre place pour la punition permet qu'on soit pardonné et réconcilié avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, c'était le plan de Dieu. Jésus est venu, il a vécu, il est mort pour nous, et 3 jours après, il est ressuscité. Et il nous permet d'être pardonnés, purifiés et réconciliés avec Dieu. Et cette solution, elle s'appelle la grâce. C'est une faveur imméritée qui se concentre sur le fait de nous sauver sans passer par le jugement. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Et c'est là que les choses deviennent justes. On pourrait dire que ce n'est pas juste que Jésus soit mort à notre place, mais c'est juste pour Dieu, c'est la seule chose qu'il pouvait accepter pour que nous, on soit pardonnés. Donc Jésus a subi, en mourant sur la croix, les exigences de la justice divine que nous ne pouvions pas satisfaire. Et ainsi, il nous rend juste si nous avons la foi en lui. Donc en résumé, tout homme est donc perdu. Et Dieu a envoyé Jésus pour que quiconque croit en lui soit sauvé, car il veut que tous les hommes soient sauvés et réconciliés avec lui. Ça, c'est le postulat de base, c'est l'histoire de base en évangélisation. On va voir une autre vidéo qui nous rappelle ce message d'une manière, vous allez voir, assez intéressante, que vous pouvez aussi utiliser. Ça s'appelle Falling Plate, c'est assez facile à trouver sur YouTube et qui est vraiment une belle manière de présenter l'évangile.
Toi, regarde tes yeux, regarde-les, étincelants, colorés. Chacun est unique, et je les ai tous créés. J'ai tout créé, l'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose. Pour combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus. Que cherches-tu? Je ne veux pas que tu meurs. Je t'ai créé, non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenu comme toi, une créature fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai jamais péché. Je suis venu te sauver. Tu as tellement péché. Et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché. J'ai échangé ma vie contre la tienne. Et je suis mort à ta place. Parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance. Je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi.
Voilà, je pense que ça peut être intéressant à utiliser. Hein, vous le trouverez facilement, Falling Plate, et vous choisissez la version en français sur YouTube. Donc, si on est au clair sur le message de l'Évangile, son contenu qu'on va devoir présenter aux gens, on voyait tout à l'heure que la première étape de la mission, ça va être quand on va connecter et qu'on va présenter l'Évangile. Et là, je voudrais vous proposer une petite série de conseils sur comment aborder les gens. Parce que c'est sûrement là que c'est le plus difficile quand c'est le moment de passer à l'action. Quand on se dit, allez, aujourd'hui, je vais présenter l'Évangile à quelqu'un. C'est ce qui correspond au fait, en fait, d'être envoyé. J'ai lu un sondage qui disait que dans les milieux chrétiens, beaucoup de chrétiens considèrent incorrect de témoigner de leur foi en Jésus à leurs amis, à leur famille ou à des gens d'une autre croyance qu'eux. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. On peut parler pourtant de tout avec les gens, de sport, de politique, ça on aime bien, de la météo, encore un peu du Covid, mais on oublie parfois le sujet le plus important, celui de la vie éternelle ou du salut. Alors, je dis on oublie, parfois justement on n'ose pas. Alors voici quelques conseils préalables avant de vous lancer pour pouvoir présenter l'Évangile. Déjà, réalisez que les gens que vous allez avoir en face de vous, quand vous allez présenter l'Évangile, ont certainement une image de Jésus qui est faussée. En fait, on a une vraie bonne nouvelle, mais comme on le voyait tout à l'heure, elle n'est pas toujours bien accueillie, parce que l'idée que les gens ont de Jésus n'est pas la bonne. Alors avant de parler de Jésus, il faut réfléchir à ce que son nom évoque et l'idée que les gens s'en font. Vous savez, beaucoup de gens détestent vraiment le christianisme, mais ils ne savent même pas qui est Jésus, en fait. En fait, ça peut être à cause d'un mauvais témoignage, peut-être une prise de position violente d'un chrétien, peut-être même l'histoire de l'Église. Ceux qui ne connaissent pas Jésus vont associer son nom à tout ce qui y est attaché. Donc les guerres de religion, les scandales d'abus sexuels dans l'Église catholique, les malversations financières de certaines églises, parfois même les dérives de certaines sectes. Alors des fois, c'est peut-être des excuses pour ne pas croire. C'est facile de dire, hein, je ne veux pas croire à ton Dieu, vu ce que font les curés, vu ce qu'ont fait les chrétiens dans l'histoire. Mais malgré tout, ça donne une mauvaise image de Jésus. Et puis même sans ça, les représentants de Jésus, les chrétiens, les disciples, ne donnent pas toujours envie de connaître Jésus. Dallas Willard écrit, il dit à ce sujet, « Beaucoup de gens rejettent le christianisme à cause de l'attitude intransigeante des chrétiens murés dans leur tour d'ivoire, dont la vie paraît morne, ennuyeuse, stricte à l'extrême et dépourvue de toute satisfaction. Une piété faite de rituels et de règles incompréhensibles est souvent la cause de la rébellion humaine contre Dieu, autant que la misère morale de l'humanité. » Du coup, au fond, les gens détestent bien souvent l'idée qu'ils ont de Jésus, celle qu'on leur a donnée, plutôt que qui il est vraiment. Alors peut-être n'en voulons pas trop à ceux qu'ils ne connaissent pas encore un Dieu ou qu'ils ne le comprennent pas encore. Et certainement que notre témoignage vivant de Jésus sera essentiel pour révéler qui il est. Des fois, quand on faisait des camps d'évangélisation, les jeunes revenaient et disaient oh, « les gens, ils n'aiment pas Jésus ». Et puis finalement, ben, on réalise que c'est l'image de Jésus qu'ils n'aiment pas. Ensuite, réalisons la place de la question de la croyance chez les gens avec qui on va discuter. Parfois, on se dit, ben, les gens peuvent ne pas être intéressés par la croyance. Aujourd'hui, personne ne croit. J'ai lu une étude qui dit que pour la première fois dans l'histoire en France, je crois qu'on a dépassé les 50% de Français qui ne croient pas en Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu ça récemment. Pendant des années, c'était au-dessus. Et même s'il y a tous les a priori vis-à-vis de Jésus, ben sachez que la question de la croyance et d'une force supérieure est en général une question de poids chez tout le monde, même chez ceux qui ne le reconnaissent pas. L'Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste 3.11, « Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accompli du début à la fin. » Donc malgré tout, même si les gens ne semblent pas intéressés, on parle avec les gens, quand on parle de l'Évangile, d'un sujet qui les préoccupe, d'une manière ou d'une autre. Et je pense plus particulièrement encore dans notre monde en crise. Et d'ailleurs, vous savez, ce que recherchent les gens aujourd'hui, c'est en lien avec ça, les gens espèrent un monde parfait ou un monde meilleur, ils aspirent à vivre plus que métro, boulot, dodo, les gens cherchent du sens, les gens sont parfois en révolte contre la souffrance et le mal. En fait, toutes leurs aspirations et leurs manques, ben Jésus peut y répondre. Et inconsciemment, tout ce qu'il y a chez eux, ben la réponse, c'est Jésus. Et puis, il faut prendre conscience, bien sûr, du chemin à parcourir. Souvent, quand on faisait des camps d'évangélisation, quand on a des enfants de familles chrétiennes qui ont toujours été à l'église, pour eux, tout est naturel. Jésus, c'est naturel, l'Église, c'est naturel, la foi, c'est naturel. Et ils ne comprennent pas que parfois, ben, les gens s'y opposent. Ou les gens ont du mal à l'accepter aussi facilement qu'eux. Parce que certaines personnes, en fait, sont très loin de la foi. Et peut-être même qu'on va rencontrer des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Et je crois qu'il faut vraiment considérer ça. Et la démarche qui mène à la foi peut prendre du temps et va prendre du temps. Et d'ailleurs, on sera parfois juste un maillon de la chaîne. Essayons du coup de faire réfléchir les gens et de les amener petit à petit sur le chemin qui mène à Christ. Surtout, dans la mesure du possible, essayons aussi de donner une bonne image de la foi chrétienne. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois ce sont les chrétiens qui vont donner la mauvaise image et qui vont faire en sorte qu'on n'a pas envie de connaître ce Jésus. Et puis, quand on va vouloir faire de l'évangélisation, il va falloir se libérer de certains a priori. Quand vous rencontrez une personne, ne vous demandez pas si Dieu voudrait la sauver, elle. Je me rappelle, quand on faisait des camps d'évangélisation sur les plages, on regardait certaines personnes, on se disait « Non, on ne va pas aller parler avec lui. » Ou « On ne va pas aller parler avec elle. » Avec eux, ça ne marchera pas. Donc, ne présumons pas que ça ne pourrait pas marcher avec certains. Jésus, il a confié la base de l'Église à Pierre qu'il avait renié 3 fois. Et quand Jésus a choisi son évangéliste international numéro 1, il a pris le pire persécuteur d'église qui existait à l'époque. Enfin, je ne sais pas si c'était le pire, mais en tout cas, Paul était très très en colère contre l'église. Il ravageait l'église et il encourageait les meurtres de chrétiens. Vous imaginez, au ciel, le Père il dit à Jésus, tiens, tu penserais à qui là pour te faire connaître un peu? Il dit, bah, tiens, regarde, il y en a un qui est en train de massacrer mes frères. C'est celui-là qu'on va prendre. C'est ce qu'il a fait. Donc Dieu peut toucher et utiliser n'importe qui, ne nous laissons pas tromper par nos a priori. Et peut-être que justement, avant d'aller vers quelqu'un, prions en disant, Seigneur, débarrasse-moi de toutes les mauvaises pensées que je pourrais avoir. Je me rappelle, des fois, on voyait des gens, certaines coiffures, les tatouages, les machins, on dit, oh là là, celui-là, surtout pas. Seigneur, débarrasse-moi de ça et conduis-moi où tu veux me conduire. Et puis maintenant, une fois qu'on a fait un peu ce travail intellectuel avant de partir, je vous propose dans la pratique 3 grands points. Le premier, c'est aimer les gens. Et on va le développer plus en détail demain matin. Mais quand il est question d'aimer les gens, la première étape, c'est de prier. Parce qu'avant de parler de Dieu aux hommes, avant de vouloir présenter Dieu aux autres, il faut parler à Dieu des hommes à qui on va parler. Parce que vous savez, la nouvelle naissance, ce qu'on espère qu'il va se produire quand on va annoncer l'évangile, c'est pas rationnel. Ça passe vraiment par un miracle qui amène les gens de la mort à la vie. Et Jésus a dit, Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc on peut tout faire dans l'évangélisation, si le Père n'attire pas, il ne se passera rien. Donc peut-être qu'on doit commencer par prier en disant, « Seigneur, attire les gens vers qui je vais aller. Montre-moi vers qui je vais aller et attire. Fais ce travail plutôt que d'essayer de convaincre par nos techniques et notre savoir. » Et la prière n'est pas là juste pour que Dieu attire, mais on en a aussi besoin dans notre travail d'évangélisation. En Colossiens 4, les versets 2 à 4, Paul dit « Persévérez dans la prière, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour l'annonce de la parole et que je la fasse connaître de la façon dont je dois en parler. » Donc même Paul dit « Priez pour que je sache comment annoncer l'évangile. » Et aux Éphésiens, il dira « Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Et je crois que comme Paul, je ne pense pas qu'on peut se passer de faire ce qu'il a fait lui, on doit aussi prier avant de partir et demander aux autres, demander à l'Église de prier pour nous. Prier pour qu'on ait les bonnes paroles, prier pour que les gens soient touchés, prier pour que le Père attire, et comme on le voit aussi, prier pour que Dieu nous donne du courage. Et je crois que c'est cette notion de courage dans l'Évangile est vraiment importante. Au début de l'Église, acte 4, on voit que Pierre et Jean ont été persécutés, emprisonnés, battus, et puis ils sont menacés par les autorités en lien avec l'annonce de l'Évangile. On leur dit, vous n'aurez plus le droit, parce que la prochaine fois, là on vient de vous mettre en prison et de vous frapper, ça va être pire. Donc ils vivent vraiment la persécution. Quelques temps plus tard, on va tuer les chrétiens, Étienne va être tué, Jacques va être tué, donc ils avaient quand même affaire à des opposants assez radicaux. Ils sortent de prison, ils se retrouvent avec les frères et sœurs, et là ensemble ils font une prière. Et je vous donne juste l'extrait de la prière qui concerne ce sujet. Ils disent à Dieu, verset 29 dans acte 4, « Maintenant Seigneur, regarde comme ils nous menacent. » Alors moi je repense au camp d'évangélisation, et quand on faisait des spectacles de rue, on voyait une voiture de police arriver, on avait peur qu'ils interrompent le spectacle, alors nous on priait, on disait « Seigneur, fais-les partir, ou fais qu'ils soient sympas avec nous. » Comme si en fait, ce qu'on voulait, c'est que Dieu maîtrise ceux qui pourraient être contraires. Mais là, voilà ce qu'ils disent, « Regarde comme ils nous menacent, et donne à tes serviteurs le courage nécessaire pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Pierre et Jean l'a dit, « Seigneur, ce qu'on veut face à cette adversité, c'est que tu nous donnes encore plus de courage, qu'on puisse encore mieux annoncer avec assurance. » Ils ne demandent pas à Dieu d'être délivré de l'oppression ou de la persécution, ils demandent juste d'avoir de l'assurance. Et Dieu répond, il est dit tout de suite après que le Saint-Esprit les remplit tous et que l'endroit où ils étaient a tremblé. Et après ça, ils annonçaient et les gens se convertissaient. Donc, prier pour les gens, demander aux autres de prier pour nous. Et puis ensuite, quand on va connecter avec les gens, les connecter dans l'amour. À plusieurs reprises, on voit que Jésus, quand il regardait les hommes, les foules, on lit qu'il était ému de compassion pour les foules. Parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, des gens qui n'avaient rien à manger et qui étaient malades. J'ai 5 passages où Jésus est dans cette situation, il les voit et il est ému de compassion. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les donner aussi. Du coup, apprenons à être comme Jésus, à nous laisser toucher par la situation des gens. Et prions pour que Dieu augmente notre amour pour eux. C'est vrai que si on part pour annoncer l'évangile, qu'on pense à quelqu'un et qu'on se dit, il faut, j'ai mon plan, c'est ce que je dois dire, mais que je ne l'aime pas, je ne vais pas être touché au plus profond de moi par cet amour. Et les aimer sera certainement la meilleure porte d'entrée pour atteindre leur cœur. Et je ne sais pas, alors, il y en a certains pour qui aimer les autres, c'est plus facile. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. J'ai du mal à aimer, je dois me battre avec moi pour ça. Et je sais que j'ai besoin de prier, j'ai besoin aussi qu'on prie pour moi, pour que vraiment j'ai de la compassion pour les gens. Et je crois qu'on doit le faire avant que chaque moment où on présentera l'évangile. Et puis aussi, on doit réaliser la situation de perdition des gens, leur absence de direction, leur absence de sens dramatique et la destination finale, qui est l'enfer, parce que c'est une réalité. Jésus le dit en Matthieu 13, versets 49 et 50, « Il en ira de même à la fin du monde. Les anges, viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise du feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et on oublie parfois cette question de l'enfer et on perd parfois aussi ce sentiment d'urgence. Mais vous savez, dans l'Évangile, Jean-Baptiste, Jésus et les disciples ont toujours commencé leur prédication par les mêmes mots. Repentez-vous, changez d'attitude. Pourquoi ? Parce que sinon, il y aura une conséquence. L'Évangile est une bonne nouvelle, mais qui vient contrer une mauvaise nouvelle. Parce que la nouvelle de base, c'est qu'on est tous perdus et on va tous en enfer. Alors évidemment, il faut l'aborder avec sagesse. Il ne faut pas aller voir les gens en disant « t'es perdu, tu vas mourir en enfer ». Mais on doit l'avoir en tête. Et ça va alimenter notre amour pour eux. Et quand vous regardez quelqu'un à qui vous allez partager l'évangile, si vous vous dites, s'il ne l'accepte pas, ça fait assez l'enfer, ça va changer votre approche. Ça va changer votre attitude. Donc prions pour que Dieu nous donne cet amour pour les gens au point d'aspirer à ce que leur vie soit changée et qu'ils soient sauvés de l'enfer. Et puis ensuite, réalisons que l'évangile qu'on annonce va transformer réellement la vie des gens. Parfois, quand on annonce l'évangile, notre but, c'est qu'ils acceptent ce qu'on a annoncé, le message, et puis voilà. Mais on doit réaliser qu'il va se passer des choses grandioses dans leur vie. Jésus a dit, Jean 10:10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Luc 4:18-19, il rappelle qu'il a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et c'est ça son programme pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il faut croire et s'attendre à ce que le message va vraiment changer les gens par notre intermédiaire, puisqu'on est nous aussi des envoyés. Alors prions pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des changements, et attendons-le avec foi. Mais n'oublions pas que ces changements commencent toujours par la repentance qu'on ne doit pas oublier d'annoncer. Sans repentance, Jésus dit, sans repentance, vous périrez tous. Deuxième grand point après l'amour, écouter les gens et nous adapter à eux. D'abord, évitons de faire des mauvais raccourcis. Des fois, quand on discute avec les gens, on veut tout de suite annoncer l'évangile et on cherche par n'importe quel moyen à y arriver. Par exemple, « Oh, quel beau soleil aujourd'hui !» Enfin, je ne sais pas si on le dit souvent, Lorraine, « quel beau soleil aujourd'hui !» Oui, non ? Si ? Ouais ? Mais par exemple, « Oh, quel beau soleil ! » Dites-moi, vous savez d'où vient le soleil ? C'est bon, j'ai trouvé comment je vais parler de Dieu. Et ça, alors bon, je pense pas qu'on est aussi grossier que ça, hein, mais quand on fait ce genre d'erreur, ça se fait au détriment du message, et ça peut donner l'impression d'avoir des motivations commerciales, comme si on voulait vendre quelque chose. Et ça peut faire douter de la sincérité. Donc, faisons attention, l'évangile doit être présenté avec sagesse. Et justement, avant de commencer à parler de Dieu, de parler de Jésus, prenons le temps d'écouter les gens. Et dans les premiers temps, quand on va discuter avec quelqu'un et qu'on a envie de lui présenter l'évangile, on va commencer par s'intéresser à eux et les écouter. Dites-vous que dans les premières minutes, le seul sujet intéressant, c'est pas Jésus. Oh, le blasphème. C'est eux. Dans les premières minutes, le sujet intéressant, c'est eux. Posez des questions aux gens, intéressez-vous à eux, et puis surtout, écoutez. Écoutez bien leurs réponses. Et si les gens sont ouverts à la discussion, rebondissez sur leurs réponses et essayez d'aller plus loin. Parce que si on veut présenter Jésus, qui va combler leur manque, qui va consoler leur peine, qui va leur apporter la solution, alors qu'on ne connaît rien d'eux, comment on va être pertinent? Même avec le meilleur message du monde. On arrive à, vous savez, Jésus vous aime, il peut vous donner la santé. Ben, moi, je suis en très bonne santé, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. Il peut vous donner la paix, mais moi, tout va très bien. Donc, écoutons les gens, attendons d'avoir entendu de leur part un point ou une question de leur vie auquel l'Évangile pourra répondre. Je me rappelle une fois à PlayStation, je parle beaucoup de ces camps parce que c'était des camps où on partageait beaucoup l'Évangile. On était partis, donc on faisait des binômes, et on arrive, il y avait quelques jeunes qui étaient là, et on commence à discuter avec eux, on s'assoit dans le sable avec eux. Et puis, alors voilà, moi j'ai une histoire de vie, j'ai eu un accident il y a quelques années, et puis Dieu m'a vraiment accompagné, j'ai vécu des choses extraordinaires de sa présence au travers de ce que j'ai vécu. Et dans ma tête, je me disais, moi j'ai mon témoignage dans l'épreuve, je peux sortir ma cartouche, et c'est facile, quoi. Et puis, j'ai eu cette idée de le faire, puis il y avait une petite voix qui me dit, c'est peut-être pas le moment. Et on commence la discussion avec eux, et puis au bout de 10 minutes, il y a un des deux jeunes, il dit, en fait, je peux pas accepter votre message. On dit, mais pourquoi ça? Il dit, mais vous pouvez pas comprendre, mais je peux pas l'accepter parce que moi j'ai une maladie depuis des années. Et du coup, votre histoire de Dieu, elle peut pas marcher. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, bah, tu veux que je te raconte mon histoire? Alors, bon, c'est pas une maladie, c'est un accident avec des conséquences parfois lourdes et qui durent. Et du coup, je me suis dit, c'était le bon moment de lui dire. Mais si j'étais arrivé en disant, ouais, voilà par quoi je suis passé, je veux te présenter ce Jésus, ben, ça serait peut-être moins bien passé. Et là, c'était au bon moment. Du coup, l'annonce de l'Évangile doit certainement commencer par cette recommandation. Taisez-vous et écoutez bien. Et prions pour que Dieu nous aide à écouter. Parce qu'encore une fois, notre nature, elle a envie de parler, elle a envie de dire des choses, on a un bon message, il faut le dire, mais parfois, il faut vraiment commencer par écouter. Et puis après avoir écouté, adaptons-nous. Paul disait, 1 Corinthiens 9, 22, « Je me suis adapté en tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens possibles. » Et si Paul fait ça, c'est parce qu'il savait qu'il était important de se mettre au niveau de celui avec qui on parle. Vous savez, d'ailleurs, on a l'exemple avec Jésus, hein. Il ne s'est pas adressé de la même manière à tout le monde. Pourtant, il a toujours dit la même chose, hein. Il a toujours présenté la bonne nouvelle, son message était le même, mais par exemple, avec la Samaritaine, il va parler de choses très terre-à-terre. Il va lui parler des choses de la vie, de son besoin physiologique, de l'eau, de son mari. Et puis même, il va commencer la discussion en se mettant dans une situation de dépendance. Il va lui dire « Donne-moi à boire ». Avec Nicodème, le chapitre 3 de Jean, là on est dans Jean 4, avec Nicodème qui est un pharisien, Jésus va utiliser des termes plus théologiques, plus profonds, avec une exigence intellectuelle beaucoup plus élevée, même si au fond, il parle de la même chose. À Nicodème, il va dire « Il faut que tu naisses de nouveau ». À la femme samaritaine, il dit « Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. » Mais ça veut dire la même chose. Il veut dire la même chose. Je te propose quelque chose qui va complètement transformer ta vie. Il se met au niveau de son interlocuteur. Et avec Zachée, Jésus, il a eu simplement besoin de lui montrer de l'intérêt pour provoquer un changement radical dans sa vie. Zachée fait partie des personnes dans l'évangile où on sait qu'ils sont sauvés. Hein. Le texte dit, Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. On se dit, comment ça a marché? Mais Jésus a juste dit, Zachée, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Autrement dit, tu m'intéresses. Je veux passer du temps avec toi. Et ça, ça a touché le cœur de Zachée. Du coup, Jésus s'adressait de manière différente selon à qui il était confronté. Et peut-être que nous, par exemple, on pourrait aborder une discussion avec un musulman en reconnaissant son zèle dans sa croyance. D'ailleurs, eux, ils le font très souvent avec nous. Quand on fait les camps d'évangélisation, ils viennent nous voir et ils nous disent « Respect, bravo, vous aimez Dieu et vous le servez. » Et on peut dire à un musulman ben, « Toi et moi, on est pareil sur ce point. Toi et moi, on respecte Dieu. » Il y a des différences après, mais quelque part, on peut reconnaître quelque chose qu'on partage. Et puis ensuite, ne nous laissons pas décourager parce que les apparences peuvent être trompeuses. Encore une fois, dans les camps qu'on faisait sur les plages, je me rappelle que les jeunes, ils revenaient surtout les premiers jours, ils disaient « Oh là là, on a rencontré des gens. » Ils avaient une croyance bizarre, ça ne marchera pas avec eux. Mais du coup, avec le temps, je me suis dit « Mais c'est normal en fait. Les gens cherchent. Quelqu'un qui a une croyance bizarre, alors il va falloir évacuer le bizarre. » Mais il a une croyance, ça veut dire qu'il a une soif, ça veut dire qu'il cherche quelque chose, donc il y a une porte d'entrée. Moi, je préfère discuter avec un musulman, excusez-moi, qu'avec une bonne vieille catholique. Je vous dis ça parce que, encore une fois, j'ai une image dans un camp, on faisait un spectacle de rue, puis j'étais assis à côté d'une dame, on regardait le spectacle, et puis donc on avait tous les t-shirts, donc on était identifiables, hein, comme les t-shirts orange. Puis je dis à la dame, qu'est-ce que vous pensez du spectacle ? Puis je vois qu'elle ne me répond pas. Je dis, « Oui, madame, comment vous trouvez le spectacle ?» Elle me dit, « Monsieur, je suis catholique et je suis baptisé. Allez vous occuper des perdus. Bah, » honnêtement, jamais un musulman m'a parlé de cette manière. Ils ont toujours été ouverts, parce que quelque part, il y a une recherche. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de recherche chez les catholiques. Hein. Mais j'espère que ce n'est pas enregistré. Hein. Du coup, on ne sait pas ce que les gens pense au fond d'eux. Et une étude, alors c'est pas mathématique, hein, mais a révélé que les gens viennent à Jésus après 7 expositions à l'évangile. Peut-être un témoignage, je rencontre des chrétiens dans la rue, par hasard, je suis à l'église un dimanche, au bout de 7 expositions. Et l'évangile en général, enfin non, pardon, pas en général, et l'évangile porte des fruits à plus ou moins long terme. On parlait de la Samaritaine tout à l'heure. Il lui a fallu à peu près une demi-heure pour être convaincue et pour aller annoncer l'évangile. On lit tout de suite après, elle retourne dans sa ville. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de cette femme. Donc quelques dizaines de minutes après avoir rencontré Jésus, elle est en train d'évangéliser. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Autrement dit, « Venez à Jésus. » Pour Nicodème, dont on parlait tout à l'heure, qui était pourtant allé voir Jésus intentionnellement, qui lui avait posé des questions et qui avait vraiment discuté avec lui sérieusement, ben Nicodème, a priori, hein, il a mis 3 ans à céder. C'est seulement quand Jésus est mort qu'il va dire « Allez, j'arrête, peu importe ce qu'on pense de moi, je vais aller aider Joseph à le descendre de la croix. » Donc l'évangile agit à plus ou moins long terme. Ne soyons pas impatients, semons et prions. Et puis enfin, le troisième point, c'est stop à la pression. Ne nous mettons pas la pression. Encore une fois, je me rappelle quand on faisait ces camps sur les plages, les jeunes, ils voulaient voir des conversions. Le jour même. Et comme on était au bord de la mer, pourquoi pas faire le baptême tout de suite après? Bon, après tout, ils avaient raison, c'est biblique. Hein, c'est comme ça que ça se passait. Mais parfois, on veut convaincre, on veut voir des conversions. Alors c'est bien, hein, mais ce qui est essentiel à réaliser, c'est que le résultat ne dépend jamais de nous. Jésus, quand il a envoyé ses disciples en mission, il leur dit en Actes 1:8, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » C'est seulement quand les disciples recevront cette puissance qu'ils pourront être des témoins, parce que ça ne dépend pas de leur capacité personnelle. Puis Jésus a dit aussi, en Marc 4, versets 26 à 29, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. » J'aime beaucoup ces mots. « Sans qu'il sache comment. » En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Autrement dit, quand on a semé, c'est ce qu'il dit dans cette parabole, sans qu'on sache comment, ça va porter du fruit. Parce que ça ne dépend pas de nous. Et comme on le disait tout à l'heure en Jean 6, 44, Jésus dit « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Et c'est là que nous avons notre part. C'est vrai que nous semons, et ensuite nous devons à nouveau prier pour que le Père attire et que la graine porte du fruit. Et Pierre a écrit, il a dit, il faut être toujours prêt à partager notre foi. Et il nous donne des conseils sur cette attitude. 1 Pierre 3,15, il dit, « Si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêt à justifier courtoisement, dans le calme, avec modestie et respect. » C'est la traduction parole vivante, elle est assez développée. « Veillez à garder votre conscience pure, pour que ceux qui disent du mal de votre bonne conduite découlant de votre communion avec le Christ aient à rougir de leur calomnie. Il faut les confondre sur le terrain même où ils nous attaquent. » Pierre dit, on doit défendre notre espérance. Mais défendre, ça veut dire que c'est les gens qui vont venir vers nous. Et qu'on doit être prêt à défendre non pas une position, non pas une religion ou une doctrine, non pas non plus le fait de défendre le fait de vouloir avoir raison, mais on défend une espérance qui dépend d'une personne. Et les gens vont venir vers nous, vont venir nous demander des comptes, c'est ce que dit Pierre, parce que notre attitude, notre mode de vie, notre vitrine extérieure doit être ce témoignage qui fait qu'à un moment, les gens vont venir nous voir et nous dire « j'ai des questions à te poser » ou « j'ai des critiques à te faire ». C'est peut-être le cas, mais parce que notre attitude va les déranger. Alors soyons prêts, et notre manière de défendre notre espérance doit être conforme à notre témoignage. Et là, dans ce passage avec Pierre, l'évangile, ce n'est pas une démarche qui va vers l'autre, mais qui répond à l'autre quand il vient, parce que je me suis préparé. Et puis rappelons-nous que nous sommes des témoins de Jésus, on l'a lu dans Actes 1:8, et pas des avocats de Dieu. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. On veut être un avocat de Dieu. On veut le défendre. On veut prouver que c'est le vrai Dieu. Vous savez, les disciples, à l'origine, eux, ils ont simplement raconté ce qu'ils ont vu et entendu. Si vous lisez les Actes, si vous lisez les premières prédications, les premiers discours de Pierre, en fait, c'est juste, on était avec lui, on l'a connu, il est mort, il est ressuscité, c'était bien vrai, c'est lui le Messie. Ça paraît, en fait, presque simpliste. Aucun des disciples n'a essayé de convaincre. Personne n'a essayé d'expliquer comment Jésus était ressuscité. Ils ont juste dit, on l'a vu. On l'a vu, il est ressuscité. Je vous relis Actes 1:8, hein, mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et en tant que témoins de Jésus, nous n'avons pas besoin de tout expliquer. Parce que justement, nous ne comprenons pas tout. Il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Si quelqu'un parmi vous me dit « moi j'ai tout compris », j'ai quelques questions à lui poser. Parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, c'est normal. L'homme le plus sage de toute l'histoire humaine. Vous savez qui c'est ? Salomon. C'est Dieu dit, je te donne une sagesse que personne n'a eue avant toi, personne n'aura après toi. On est sûr que il n'y a personne au-dessus de lui. Cet homme le plus sage, Ecclésiaste 11:5, dit, tu ne peux jalonner le chemin du vent. Tu ne sais comment s'agencent les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne saurais connaître la manière d'agir du Dieu qui fait tout. Ce verset nous ramène en fait à notre état d'être humain si différent de Dieu et incapable de le comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que dans sa parole, Dieu nous demande toujours de l'accepter, jamais de le comprendre. Il ne nous dit pas « comprenez-moi ». Alors, j'ai trouvé un passage où Dieu dit « comprenez ». Il dit « comprenez que je suis Dieu ». Autrement dit, que vous ne pouvez pas me comprendre. Ceci dit, ne nous cachons pas derrière la réponse « ah, je ne sais pas quoi te dire, on ne peut pas comprendre Dieu ». On a peut-être besoin de faire vraiment des études bibliques sérieuses sur les sujets d'actualité. Parce que quand on va annoncer l'Évangile, ben les gens vont nous poser des questions. Il y a des choses qu'ils aimeraient comprendre, la question de la misère dans le monde, et puis avec toutes les questions en lien avec le genre, il y a tout un tas de questions qu'ils vont nous poser. Et peut-être qu'on doit se préparer, cibler les sujets les plus d'actualité, connaître notre sujet, être prêt, mais savoir que de toute façon, on ne connaît pas tout. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas des avocats de Jésus, mais ses témoins. On n'est jamais là pour le défendre. On est là juste pour raconter. Et certainement qu'un très bon moyen pour présenter l'Évangile, et on le verra dans l'atelier demain après-midi, ce sera notre témoignage, qui sera sûrement le meilleur moyen de faire connaître Jésus et de dire ce qu'il représente pour nous en témoignant de notre vécu. C'est pour ça que le témoignage est un élément très important dans l'évangélisation, parce qu'il va servir à prouver le message de la bonne nouvelle. Jésus ne nous demande jamais de longs discours, hein. Il nous demande de le présenter aux autres en racontant ce qu'il a fait dans nos vies. Évidemment, ça ouvre ensuite sur l'annonce de l'Évangile, clairement, hein. Comme on l'a lu tout à l'heure, si l'Évangile n'est pas proclamé, personne ne sera sauvé. Mais parfois, pour être rendu attentif à l'Évangile, on a peut-être besoin d'entendre l'histoire de vie des gens, voir ce que Jésus a fait dans leur vie, pour qu'à ce moment-là, nos oreilles et notre cœur s'ouvrent et soient prêts à l'entendre. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils évitent de témoigner parce qu'ils disent « je connais pas suffisamment la Bible, je suis incapable de prouver que Jésus est ressuscité ou que Dieu existe ». Mais en fait, un témoin, il n'a pas expliqué quoi que ce soit. Hein. Un témoin, il est là pour raconter. Il raconte ce qu'il a vu. Et le reste, c'est le travail du Saint-Esprit qui seul est capable de convaincre. Donc si on est au clair sur ce qu'on a vécu et qu'on dit aux gens « enfin, vous rentrez le lundi, vous rentrez au boulot le lundi, vous racontez votre week-end. Vous rentrez en septembre après les vacances, vous racontez vos vacances. On sait super bien le faire, en fait. D'ailleurs, avec les réseaux sociaux, on le fait tout le temps, hein. On raconte toujours notre vie. J'ai mangé ça, je fais une photo, je l'envoie à tout le monde sait ce que j'ai mangé. En fait, on se raconte tout le temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il nous dirait, Jésus, ben, ça tombe bien, vous êtes dans une époque où on se raconte, mais racontez-vous, mais dans ce que vous vivez avec moi. Et après, ce n'est plus votre travail, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Alors voilà ces quelques conseils, peut-être que vous avez pu entendre au travers de tous les éléments que je vous ai partagés, qu'il y a un sujet qui revient tout le temps sur presque tous les points. Vous l'avez relevé ? Non ? C'est la prière. Vous ne l'avez pas entendu ? Sur chaque point, c'est la prière. Priez pour avoir de l'amour pour les gens. Priez pour les présenter à Dieu. Priez pour avoir du courage dans nos contacts. Priez pour avoir une oreille attentive. Priez pour trouver le bon angle d'approche. Priez pour avoir la parole appropriée et inspirée. Et enfin, priez pour que la graine semée puisse germer. Au fond, l'évangélisation s'appuie essentiellement sur la prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir, hein. Mais l'évangélisation s'appuie essentiellement sur la prière. Et moi, je vous encourage peut-être à réviser l'Évangile, peut-être en regardant la vidéo tout à l'heure, et qui est très claire, à revoir ces petits conseils, et puis peut-être à être intentionnel. Parfois, on se dit, bon, moi je suis prêt, je connais l'Évangile, je veux en parler, maintenant, ben, vas-y Dieu, envoie-moi quelqu'un. Mais peut-être parfois, on a besoin de dire, Seigneur, je te prie de me montrer aujourd'hui à qui tu veux que je partage l'Évangile. Et peut-être se dire, il y a tel voisin, telle personne, je vais commencer à prier pour lui, je sais qu'il ne te connaît pas, je pense à lui. Alors, Seigneur, touche son cœur. Et peut-être chercher des petites occasions favorables pour pouvoir le faire. En fait, tant qu'on ne le fait pas, on attend que Dieu fasse ce travail. On dit, oh, je suis prêt, je connais l'évangile, je suis préparé, j'ai l'évangile.net, j'ai la grande histoire, j'ai toutes les cartouches, il n'y a plus qu'à m'envoyer du monde. Peut-être que Dieu attend qu'on soit plus intentionnel que ça. Et moi, je vous proposerai de réfléchir, peut-être vous dire, et on va peut-être prendre quelques minutes de silence et de se dire, qui Dieu me met à cœur? Alors, je ne sais pas, peut-être Dieu va vous donner un prénom, peut-être pas, peut-être vous allez continuer d'y réfléchir et dire, Seigneur, c'est sûr, c'est ta volonté. Tu me dis de faire des disciples. Ta parole me dit que je ne peux pas faire de disciples tant que je n'ai pas annoncé l'évangile. Je veux commencer par ça. Avec qui je vais le faire? Et Dieu va répondre. Quand on est intentionnel, Dieu va répondre. Moi, le jour où j'ai compris qu'on devait vraiment accompagner les jeunes, alors je vous dis les jeunes parce que c'est ce qu'on fait à JPC, de manière intentionnelle, avec un programme, je vous en parlerai demain, la grande histoire, le jour où j'ai compris ça, que je me suis concentré dessus, mais ça n'arrêtait pas d'arriver. Certaines semaines, je démarrais 3 parcours. Je disais à Dieu, mais je n'avais pas prévu ça, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il me disait, mais t'as envie de le faire. T'as compris qu'il fallait le faire. Ben maintenant, je vais répondre. Puisque t'es disposé, maintenant, je vais répondre. Et je crois que j'ai dû d'abord reconnaître, dire à Dieu, pardon, parce que ben, j'ai négligé la mission. Et j'ai négligé l'annonce de l'évangile. Et j'ai dû me repentir. Parce qu'en fait, je le savais, j'avais la Bible entre les mains. Et peut-être qu'on doit demander pardon à Dieu. Peut-être qu'on doit lui dire, maintenant, conduis-moi. Et je te prie pour telle personne. Et j'attends le moment où tu vas ouvrir une porte. Et si tu ne l'ouvres pas, moi je vais faire ma part aussi, Seigneur. Je vais proposer, je vais tenter, je vais tendre la main. Et si on le fait, mais peut-être que dans quelques jours, vous serez en train de faire des parcours. Il y a quelqu'un dans l'église qui connaît très bien ce parcours, c'est Guillaume. Je ne sais pas s'il a le temps de vous former, j'espère. Mais ça pourrait être excellent de le faire avec ce genre d'outils. Aujourd'hui, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, il suffit de le saisir. Je vous laisse ces quelques minutes, réfléchir à ça, peut-être prier pour ça. Et puis, moi, je m'arrêterai là et on continuera demain. Et puis, si vous voulez, dans quelques minutes, on pourra avoir aussi un temps de questions-réponses.